Vous écoutez France Culture. France Culture, il est midi et demi. L'heure du journal de Thomas Cluzel. Thomas, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les suites de la démission hier de Nicolas Hulot avec Stéphane Robert. Nous nous demanderons notamment en quoi ce départ du ministre de la Transition écologique pose la question du modèle Macron. Et puis nous analyserons également l'éternel dilemme auquel sont confrontés les écologistes. Participer ou non à des gouvernements tenus par des formations concurrentes.
Toujours en France, syndicats et patronats sont en quête d'explications s'agissant de l'agenda social du gouvernement.
Et le Premier ministre reçoit à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine à Matignon toutes les organisations de salariés et d'employeurs. Parmi les sujets abordés, un en particulier s'annonce tendu, celui de la réforme de l'assurance chômage souhaitée par le gouvernement.
Invité de votre journal aujourd'hui, Thomas Cluzel, c'est Patrick Martin.
Oui, vice-président délégué et trésorier du MEDEF, à l'occasion évidemment des universités d'été de l'organisation patronale.
Et puis des scènes surréalistes en baie de Seine hier.
Altercation entre pêcheurs françaises et britanniques. Mariam El-Kurdi viendra nous raconter cette véritable bataille navale autour de la réglementation des coquilles Saint-Jacques.
Enfin, dans cette édition, illustration d'un climat électrique. Les incidents survenus deux jours durant à Chemnitz en Allemagne témoignent de cette inquiétude qui parcourt aujourd'hui toute l'Europe, celle de la montée de l'extrême droite.
Oui, et avec Marie-Pierre Véron, nous poserons notamment cette question. Donc, y a-t-il une montée de l'extrême droite en Europe ou un enracinement de la xénophobie? Enfin, à 12h55, ce sera bien évidemment l'heure de retrouver la grande table des idées au menu aujourd'hui, Olivia.
Comme une chanson populaire, la suite face à la mauvaise réputation de la pop aujourd'hui. Elle veut réhabiliter ce genre, ce courant musical. Agnès Guéraud, philosophe, chanteuse, nous rejoindra à l'occasion de la parution de son ouvrage « Dialectique de la pop à la découverte ».
Merci, à tout à l'heure. Comme un signe du destin, hier, peu après la démission de Nicolas Hulot, Météo France révélait que l'été 2018 avait été le deuxième plus chaud de l'histoire en France. Une manière de rappeler au propre comme au figuré non seulement l'urgence qu'il y a aujourd'hui à se saisir de la question écologique, mais aussi combien la canicule peut aussi parfois donner des sueurs froides, en l'occurrence au chef de l'État. Alors sur ce dernier point, tout d'abord, ce que semble révéler la démission hier du ministre de la Transition écologique, c'est combien le nouveau monde, vanté par le président de la République, a décidément du mal à délaisser la traditionnelle politique française, ou quand le vieil ordre des choses reprend inexorablement ses droits, si tant est d'ailleurs qu'il en ait été dépourvu lors de cette première année de mandat. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour Thomas.
Si la démission de Nicolas Hulot est une décision personnelle, elle revêt aussi une dimension politique qui dépasse le seul intéressé. En l'occurrence, elle pose une fois de plus la question du modèle Macron.
Oui, parce que c'est le modèle du « en même temps ». Pierre angulaire du macronisme qui se trouve mise en question, fragilisé par le départ de Nicolas Hulot. Est-ce qu'on peut en même temps prendre en compte les enjeux environnementaux qui nécessitent des mesures à moyen et long terme et concilier l'urgence du quotidien? Nicolas Hulot a lui-même répondu par la négative hier.
La pression du court terme sur les dirigeants, sur le Premier ministre, est si forte qu'elle préempte les enjeux de moyen ou de long terme.
Est-ce qu'on peut en même temps prendre des mesures contre le réchauffement climatique et continuer à faire vivre nos sociétés selon ce qui les meut, ce qui les guide depuis la révolution industrielle, à savoir un modèle de développement, de progrès permanent? Là encore, l'ex-ministre répond par la négative.
La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et surtout, on s'évertue à entretenir, voire à réanimer, un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres.
Il faudrait donc changer de modèle, si on comprend bien l'ex-ministre, pour répondre aux enjeux climatiques. Mais si on suit ces considérations, c'est toute la cohérence de l'organisation de la société qui semble être là remise en cause. Seulement, qui est prêt à ce changement de modèle, à renoncer à sa voiture pour venir au travail, à renoncer au taxi dans les villes, à payer plus d'impôts pour dépolluer l'environnement, à produire moins et plus cher, quitte à nourrir moins de monde? Le modèle macronien du « en même temps » propose la prise en compte des intérêts divergents et parfois contradictoires de tous les individus et de toutes les composantes d'une société. Nicolas Hulot avait dans un premier temps accepté d'y souscrire, avant finalement de considérer que ce n'est pas compatible avec les actuels enjeux climatiques et environnementaux.
Et voilà, qui pose justement la question du dilemme auquel les écologistes sont confrontés, participer ou non au gouvernement.
Oui, Nicolas Hulot est finalement tombé dans le même écueil que tous les écologistes avant lui. Est-il possible de concilier la défense de l'environnement et l'exercice du pouvoir? La question s'était déjà posée à la fin des années 90 pour Dominique Voynet, qui à l'époque faisait partie du gouvernement Jospin. À l'été 99, par exemple, les Verts avaient menacé de quitter le gouvernement si on lançait le chantier de l'EPR de Flamanville, qui signifiait pour eux la poursuite du programme nucléaire français. C'est au même dilemme qu'ont été confrontés Cécile Duflot, Pascal Canfin et leur soutien avec François Hollande. Eux aussi, en 2012, avaient accepté d'entrer au gouvernement au prix d'un certain nombre de compromis. Et puis finalement, deux ans plus tard, même constat d'échec, ils en sont sortis au motif que les questions environnementales n'étaient pas suffisamment prises en compte. L'an dernier, Nicolas Hulot avait repris le flambeau avec des considérations moins dogmatiques puisqu'on le savait, lui, homme de compromis. Mais il en arrive finalement au même constat d'échec, semblant acter encore une fois l'inconciliabilité entre exercice du pouvoir et développement durable.
Merci Stéphane Robert. Au thermomètre de la croissance économique, l'INSEE a confirmé aujourd'hui le net ralentissement de l'activité en France sur les 6 premiers mois de l'année, 0,2%, voilà qui devrait amener le gouvernement à revenir sur sa prévision de hausse de 2% du PIB 2018 qui paraît désormais hors d'atteinte. Autre indicateur dans le rouge en cette rentrée, le chômage avec 9,1%, il n'a pratiquement pas reflué au deuxième trimestre et c'est dans ce contexte en particulier au milieu d'annonces budgétaires qui suscitent du mécontentement que toutes les organisations de salariés et d'employeurs seront reçues à partir d'aujourd'hui à Matignon. Des rencontres prévues pour durer toute la semaine. Les premiers à ouvrir le bal seront Philippe Martinez pour la CGT et Philippe Louis pour la CFTC. Une manière donc pour le gouvernement de faire taire les reproches régulièrement formulés à l'encontre d'Emmanuel Macron accusé de vouloir contourner les corps intermédiaires. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors parmi les sujets de discussion déjà annoncés, on trouve la santé au travail, le système d'indemnisation des arrêts maladie et puis surtout l'assurance chômage, sujet sur lequel les discussions s'annoncent tendues puisque le gouvernement souhaite une nouvelle réforme.
Oui, rappelons d'abord le contexte. C'est Emmanuel Macron lui-même qui, à la surprise générale, a appelé à une réforme de l'assurance chômage. C'était devant le Congrès cet été, c'est-à-dire au moment même où le Parlement discutait la loi sur l'avenir professionnel, un texte contenant déjà un certain nombre de réformes sur le sujet, comme l'ouverture aux démissionnaires et aux indépendants sous certaines conditions et un renforcement du contrôle des chômeurs. Changement de cap donc avec cette rediscussion anticipée de la convention UNEDIC, c'est-à-dire de l'accord qui définit les règles de fonctionnement de l'assurance chômage. Il faut dire que faute de croissance suffisante, les créations d'emplois ne permettent que de stabiliser le nombre de demandeurs d'emploi et les effets des ordonnances travail et de la loi Pénico, s'il y en a, ne se verront que sur le long terme. Autant dire que l'objectif présidentiel de 7% de chômeurs d'ici la fin du quinquennat est encore loin. L'exécutif cherche donc des leviers d'action à court terme. Objectif, agir partout où il y a des mécanismes qui n'incitent pas à retrouver rapidement un emploi, explique Édouard Philippe. Alors concrètement, ce sont les règles d'indemnisation des chômeurs qui pourraient changer et plusieurs pistes sont déjà évoquées. Instaurer la dégressivité des allocations, en plafonner le montant ou encore durcir les règles permettant de cumuler indemnité chômage et travail. L'autre sujet qui devrait être mis sur la table, c'est l'instauration d'un bonus-malus pour lutter contre l'inflation des contrats courts, une modulation des cotisations chômage des entreprises en fonction de leur comportement en la matière, une proposition à laquelle le patronat s'est toujours farouchement opposé. Après une première phase de diagnostic partagé, pour reprendre les termes d'Edouard Philippe, l'exécutif enverra aux partenaires sociaux une lettre de cadrage pour la négociation. Ils auront alors 4 mois pour se mettre d'accord.
Merci Catherine Pétillon. Édouard Philippe, toujours lui, était hier à Jouy-en-Josas pour l'ouverture de l'université d'été du MEDEF. Le Premier ministre y a notamment défendu la constance de sa politique budgétaire et promis que son gouvernement œuvrerait pour améliorer la fiscalité des entreprises jusqu'à la fin du quinquennat. Invité de ce journal, Patrick Martin, vice-président délégué et trésorier du MEDEF. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes en direct et en duplex de Jouy-en-Josas, donc avec à vos côtés Jean-Marc Chardon du service économie de la rédaction. Pour commencer, monsieur Martin, j'avais envie de vous entendre sur la démission hier de Nicolas Hulot, notamment les attaques portées par l'ex-ministre contre la puissance des lobbies. Si l'on considère que le MEDEF en tant qu'organisation patronale est en soi une forme de lobby, vous sentez-vous, ne serait-ce qu'indirectement, pointé du doigt ?
Non, d'abord on n'a pas commenté cette décision individuelle du ministre. Ensuite, il faut rappeler que si on raisonne par exemple sur les émissions de CO2, les entreprises françaises, l'industrie française a fait des progrès considérables et que les principaux émetteurs, ce sont le transport, largement le transport des particuliers et le logement. Donc il ne faut pas stigmatiser l'entreprise dans ce débat.
Patrick Martin,
de Jean-Marc Chardon.
Précisément. Alors, ceux qui ont assisté à l'ouverture de cette 20e édition de l'Université du MEDEF, ils ont bien perçu un changement de ton avec la présidence Gattaz. Avec Pierre Gattaz, il était beaucoup question de combat des idées. Bon, aujourd'hui, une présidence qui se présente plus comme une présidence de proposition avec Geoffroy Roux-de-Bézieux. Pourquoi faire? Alors, pour transformer la France, ça, on l'a compris, au rythme du monde. Alors, transformer, c'est aussi le credo d'Emmanuel Macron. Donc, c'est un peu le même état d'esprit de changement.
Absolument. Absolument. Et si on a, ce qui est très partiellement le cas, des doléances à exprimer au gouvernement, c'est précisément d'aller plus loin encore dans la réforme. Donc nous sommes de ce point de vue alignés.
Alors justement, les réformes, on vient de le voir avec Catherine Pétillon, il y a l'assurance chômage, la formation professionnelle, la retraite, beaucoup de réformes qui s'annoncent pour cette rentrée. Et en même temps, d'ailleurs, les travaux, les tables rondes, effectivement, le montrent vous-même, on s'interroge beaucoup partout sur ce que sera le travail. Demain, serons-nous finalement dans une société d'intermittents du travail? On parle des intermittents du spectacle et peut-être ce système-là va-t-il se généraliser, ce qui inquiète beaucoup. Où est-ce que vous en êtes, vous, des propositions?
Alors, nos propositions, elles sont claires, on a des idées claires d'une manière générale. Il faut prendre acte que sur un certain nombre de dispositifs essentiels à la bonne marche de la société française, nous sommes défaillants. Quand je dis nous sommes, c'est pas le MEDEF qui est défaillant, c'est la France d'une manière générale. Typiquement sur l'assurance chômage, on a un dispositif qui coûte cher, qui est déficitaire, qui a accumulé des dettes considérables, et on reste scotché, ça a été évoqué tout à l'heure, un taux de chômage de l'ordre de 9%, qui est très au-delà de ce qu'on rencontre dans des pays qui sont tout à fait par ailleurs comparables à la France. Donc le moins qu'on puisse faire, c'est notre responsabilité, celle du MEDEF, mais celle de toutes les autres parties prenantes à ce débat, c'est de nous réinterroger fondamentalement sur ces dispositifs.
Oui, mais alors ces dispositifs, on se souvient de Pierre Gattaz qui annonçait effectivement des réformes permettant d'écluser le chômage. On en est encore toujours loin, très loin. Donc il faut aller jusqu'où et vous êtes prêt, vous, à subir quelles contraintes, à accepter quelles contraintes pour y parvenir?
Alors il y a une première réponse qui est engagée, hein, qui est la formation. La formation des jeunes, la formation des demandeurs d'emploi, qui produira des effets dans la durée. Mais c'est une excellente évolution à laquelle on a participé activement. Après, il y a les modalités d'indemnisation, et on sait, je crois savoir, que les syndicats eux-mêmes en conviennent, que certains dispositifs, en particulier ceux qui permettent de permuter, je dirais, de phases de travail à des phases de chômage, sont assez pernicieux, parce qu'ils encouragent, d'une certaine manière, les dépenses d'indemnisation du chômage.
Alors on se pose aussi la question au cours de cette université d'été du rôle des entrepreneurs. Quel est donc leur rôle, pas seulement de faire des profits, entend-on? En tout cas c'est la question qui est posée, et posée aussi dans le projet de loi Pacte, du rôle social de l'entreprise. Alors on pourrait aller jusqu'où, Patrick Martin, parce que c'est une question sur laquelle vous avez aussi, vous, travaillé.
Oui, alors on a une inflexion, je dirais, sous l'impulsion de Geoffroy Roux-de-Bézieux, c'est-à-dire que là où on donnait le sentiment à tort de fuir le débat sur la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, on est tout à fait prêt maintenant à appréhender ce sujet. La formulation, du moins le dispositif qui est imaginé dans le projet de loi PAC ne nous convient pas intégralement, mais ça n'est pas un objet de guerre civile, je dirais, pour nous, parce que spontanément, les entreprises sont parfaitement conscientes de leurs responsabilités à cet égard.
Alors, on a bien vu également hier, Patrick Martin, que dans les échanges, Édouard Philippe vous disait que s'il était prêt à encourager les entreprises, qu'il d'ailleurs voulait le faire, il devait aussi prendre des décisions qui soient soutenables pour l'équilibre du budget. Et évidemment, ça posait indirectement cette question d'allègement des charges, du rythme qui ne serait pas suffisant selon vous. Vous pouvez entendre ce langage?
On est très soucieux, nous, que la puissance publique, l'État en particulier, rééquilibre ses finances. On traîne ce boulet depuis des années. C'est très grave pour les futures générations. Il faudra bien rembourser la dette à un moment donné. Et ça fragilise le pays sur la scène internationale. Donc, pas de problème de ce côté-là. En revanche, c'est la source des économies qui nous intrigue, qui nous interpelle et qui nous déçoit. C'est-à-dire que, en l'État, la sphère publique, l'État en particulier, ne travaille pas suffisamment ses dépenses. Quand on est déficitaire et quand on est endetté, le moins qu'on puisse faire, c'est de travailler sur ses dépenses, et ça ne se traduira pas par un bain de sang. D'autres l'ont fait avant nous, d'autres pays. Il n'y a aucune raison que la France y échappe.
Patrick Martin, alors vous êtes le nouveau numéro 2 du MEDEF. Beaucoup ne vous connaissent pas encore, en tout cas pas très bien. Vous êtes aussi, vous avez été le président du MEDEF Rhône-Alpes Auvergne et patron d'une société, Martin Belsoud Expansion. C'est une grosse PME. Finalement, ces PME de région, on les entend relativement peu. Elles donnent l'impression de ne pas être très visibles. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'elles aient davantage droit au chapitre?
Alors je précise que ces PME, ces ETI, mon entreprise est une ETI familiale qui emploie 2600 salariés, constituent les gros bataillons du MEDEF. Un des enjeux qu'on a dans le cadre de cette nouvelle gouvernance du MEDEF, et c'est un point de vue que nous partageons totalement évidemment Geoffroy Roux-de-Bézieux et moi, c'est de faire mieux entendre ces entreprises qui finalement correspondent à l'essentiel de l'économie française. Et ce que je dis là n'est pas par opposition aux grands groupes, on s'honore d'avoir des grands groupes extrêmement performants, il y a une bonne complémentarité entre toutes les tailles d'entreprise et tous les secteurs d'activité.
Une dernière question, Patrick Martin. La semaine dernière, le Canard Enchaîné révélait qu'à l'occasion du renouvellement de vos instances dirigeantes, le conseil exécutif du MEDEF ne comptait que 10 femmes sur 45 membres au total. Pourquoi la féminisation des instances dirigeantes des entreprises françaises de manière générale est-elle à ce point difficile ?
Alors, je tiens à préciser, pardon, de parler un peu des statuts du MEDEF, que Geoffroy Roux-de-Bézieux n'avait la main, si l'on peut dire, que sur 10 poste au sein du conseil exécutif. Il s'était engagé sur la parité, sur les 10 postes qu'il a pourvus, si je puis dire, il y a bien 5 femmes. Ensuite, on a un certain nombre d'annonces qui interviendront dans les prochaines semaines s'agissant des commissions, qui sont véritablement les cellules opérationnelles du MEDEF. La parité sera largement respectée. C'est pas pour faire genre, c'est parce qu'on a de grands talents féminins autant que masculins à l'intérieur de l'organisation. Et donc, on est tout à fait sur cet axe-là. Cette critique est un peu injuste.
Bien, merci Patrick Martin, vice-président délégué et trésorier du MEDEF, d'avoir été en direct avec nous en duplex depuis Jouy en Josas. Merci également à Jean-Marc Chardon et Yves Lehors pour les moyens techniques. Une scène surréaliste à présent, imaginez deux flottilles se faisant face, prêtes à en découdre. Eh bien, c'est très précisément ce qui s'est passé hier au large de la Normandie. Une véritable bataille navale entre pêcheurs français et britanniques à coups de jets de pierre, d'insultes et de manœuvres dangereuses en mer. Mariam El-Kurdi, bonjour.
Bonjour.
Ces altercations se sont produites au large de la baie de Seine, à plus de 12 000 nautiques des côtes françaises, c'est-à-dire très précisément là où les Britanniques peuvent pêcher librement les coquilles Saint-Jacques, tandis que les Français, eux, sont soumis à une réglementation plus contraignante.
Et oui, et le point de départ de ces altercations, c'est justement la colère des marins pêcheurs français. Ils ont pris la mer pour aller au contact des Britanniques qui viennent pêcher au large de la baie de Seine. Objectif, les empêcher de piller, je cite, le gisement de coquilles Saint-Jacques, selon le comité régional des pêches de Normandie. La coquille Saint-Jacques en Normandie, vous le savez, c'est le produit phare, une ressource essentielle et donc un sujet sensible. Le nœud du problème, c'est, vous l'avez dit, que la réglementation n'est pas la même pour les pêcheurs britanniques et français. Les Français n'ont le droit de pêcher la coquille Saint-Jacques qu'entre le 1er octobre et le 15 mai. Les Britanniques, eux, n'ont aucune contrainte dans le temps. Les Français demandent donc à leurs voisins d'outre-Manche de s'aligner sur le même calendrier qu'eux. La guerre de la coquille, entre guillemets, n'est pas nouvelle. Cela fait 15 ans que les pêcheurs anglais, écossais et irlandais ont augmenté leur effort de pêche de façon considérable, selon les marins pêcheurs français. Ils dénoncent aussi un deux poids, deux mesures pour la taille des flottes, alors que la pêche côté français se fait de façon artisanale sur des bateaux d'une quinzaine de mètres en moyenne. Les Britanniques, eux, pratiquent une pêche industrielle sur des navires deux fois plus gros. Alors, à quand la fin de la guerre ? Peut-être avec le Brexit, espère le comité régional des pêches de Normandie, selon l'organisation, après le 29 mars 2019. Les Britanniques n'auront plus accès à ces zones-là.
Merci, Mariam El-Kurdi.
Midi 48 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
En Allemagne, après deux nuits de débordements et de ratonnades à Chemnitz, l'extrême droite s'est encore mobilisée hier à Dresde, cette fois-ci au pied du Parlement régional, c'est-à-dire à l'endroit même où le parti d'extrême droite, AfD, pourrait arriver au pouvoir l'an prochain à l'issue des prochaines élections régionales. Alors face au recours à la violence au sein des franges les plus radicales de l'extrême droite, dans un contexte électrique autour de la question migratoire, l'inquiétude monte en Allemagne, mais pas seulement, la préoccupation s'étend aujourd'hui au reste de l'Europe, qu'il s'agisse de l'Italie ou de l'Autriche, pour ne citer que. D'où cette question, assiste-t-on réellement à une montée de l'extrême droite ou bien l'extrême droite a-t-elle seulement bénéficié de cette banalisation du discours xénophobe qui illustrerait d'ailleurs cette tendance à qualifier aujourd'hui de populistes des partis qui sont en réalité ouvertement raciste. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Pour tenter de répondre à cette question complexe, vous avez notamment joint Philippe Poirier, professeur de sciences politiques à l'Université du Luxembourg, titulaire de la chaire d'études parlementaires et spécialiste de l'extrême droite en Europe.
Oui, et cette progression inexorable des extrêmes en Europe, il l'observe depuis 20 ans et le début de ses recherches, elle ne se dément pas, au point que selon Philippe Poirier, nous devons changer de vocabulaire. Ne parlez plus de montée de l'extrême droite, dit-il, mais d'enracinement.
j'ai commencé mes travaux sur les extrêmes droites en 1998. Leur moyenne à l'époque était de 10 à 15% dans les systèmes politiques et uniquement dans 6 à 7 systèmes politiques des États membres de l'Union européenne. Aujourd'hui, sur les 27-28 membres, si on compte encore le Royaume-Uni, on voit qu'il y a 24 systèmes politiques de l'Union européenne où les partis d'extrême droite ou xénophobes sont en capacité d'avoir des élus au Parlement national, des élus au sein du Parlement européen, et les partis que nous avons connus il y a 20 ans, qui faisaient 10 à 15%, sont tous au-dessus désormais des 20%, ou s'approchent de cette barre des 20%. Donc, il ne faut plus parler de montée, il faut parler malheureusement d'enracinement. C'est un acteur politique durable.
Seule l'Espagne semble aujourd'hui épargnée. Alors pourquoi des formations si diverses dans des contextes politiques et économiques si divers progressent-elles ainsi? Eh bien, plusieurs facteurs se conjuguent. La crise du modèle européen, bien sûr, qui ne fait plus rêver et n'est plus perçu comme protecteur face aux problèmes économiques et sociaux. Mais aussi la compétition politique exacerbée entre les partis dits de démocratie consensuelle et ceux qui ont une conception rédemptrice de la démocratie sans intermédiaire avec le peuple. Compétition qui a vu les premiers glisser vers la rhétorique xénophobe des extrêmes, vous y faisiez allusion, ce qui ne fait que les nourrir en les banalisant. Et puis, il y a ce que Philippe Poirier appelle la transformation des valeurs, avec la montée d'un « nous » identitaire. Et pour comprendre l'enracinement de ces partis, on peut, pense-t-il, se souvenir du développement des partis socialistes au début du XXe siècle.
Il y avait une question ouvrière et de l'industrie au début du XXe siècle. Des partis socialistes sont apparus et se sont enracinés. Il y a une question sur le devenir et le collectif des sociétés européennes. Alors, des partis radicaux d'extrême droite s'implantent, se développent et s'enracinent durablement. Les partis socialistes les plus radicaux ont disparu dans les années 20. Ils ont été atténués par des partis sociaux-démocrates qui ont su résoudre progressivement la question de l'ouvriérisme, de l'État-providence, etc., dans une forme démocratique acceptable. Aujourd'hui, nous avons le pic de forme démocratique représentative non acceptable. Il se peut que d'autres partis plus mainstream parviennent à digérer ces questions qui se posent désormais à l'ensemble des sociétés, quel que soit leur niveau de développement économique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas lié à la situation économique.
Et c'est éclatant en Autriche ou en Suède, qui s'apprête à voter le 9 septembre. L'économie s'y porte bien. Les partis traditionnels y adoptent depuis 2 ans un discours de fermeture sur l'immigration, la diversité ou encore le pluralisme de la société suédoise. Eh bien, le parti dit des démocrates suédois d'extrême droite pourrait, dans l'une des démocraties les plus stables de l'Union, dépasser la barre des 20% pour la première fois de son histoire.
Merci Marie-Pierre Véraud. À force de l'appeler la guerre oubliée, le conflit qui sévit au Yémen depuis 2015 sortira-t-il un jour de l'angle mort de l'actualité internationale? Les bombardements des forces aériennes de la coalition des pétromonarchies dirigée par l'Arabie Saoudite ont provoqué de très lourdes pertes civiles en visant des zones habitées, des marchés ou bien encore des mariages, et c'est ce qui est venu confirmer une fois de plus hier une mission d'enquête des Nations Unies qui juge que certaines frappes pourraient s'apparenter à des crimes de guerre. En Iran, 3 jours après la destitution du ministre de l'économie par le Parlement, elle-même précédée de celle du ministre du Travail, le chef de l'État apparaît décidément de plus en plus fragilisé face à la faction conservatrice incarnée par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Ce matin, des parlementaires ont d'ailleurs lancé une nouvelle procédure de destitution visant cette fois-ci le ministre de l'Éducation et ils ont également dans leur viseur le ministre de l'Industrie et des Mines. Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
Dans un contexte de rétablissement des sanctions commerciales américaines, la pression s'accentue donc sur le chef de l'État Hassan Rouhani.
Oui, et c'est surtout l'ère du soupçon qui domine. Financièrement et par d'autres moyens, nos ennemis tentent d'obtenir des informations sur notre pays. Ce sont les propos du ministre iranien du renseignement qui annonçait ce matin l'arrestation d'une dizaine de personnes accusées d'espionnage. Téhéran aurait également entrepris une campagne destinée à limiter l'accès des binationaux à des fonctions officielles. La crainte pour les autorités de voir s'étendre les mouvements de protestation de cet été. Si un premier train de sanctions a été lancé en début août, un deuxième est prévu en novembre. Il devrait toucher aux exportations des hydrocarbures. Face à un pouvoir d'achat qui a considérablement chuté, des Iraniens avaient manifesté contre la corruption et osé mettre en cause les plus hauts responsables du pays. Aujourd'hui, chaque clan se trouve des boucs émissaires. Le Parlement vient par exemple de lancer une procédure de destitution contre deux autres ministres, vous le disiez, et à travers eux, c'est effectivement le président Rouhani qui est dans le viseur du Parlement, auditionné hier par le Mejlis. Il n'a pas convaincu, les conservateurs affirment même que c'est sa mauvaise gestion plus que les sanctions américaines qui est responsable de l'effondrement de la monnaie iranienne.
Merci Nabila Hamel. Le temps de ce mercredi sera marqué par des pluies soutenues et même des orages parfois violents, notamment sur la façade est du pays où des rafales de vent sont également à prévoir. Seules les régions de l'Aquitaine à la Bretagne profiteront d'une accalmie, même si le ciel restera nuageux. Les températures cet après-midi, elles seront comprises entre 18 et 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par M. Le Chili. Prochain rendez-vous avec la rédaction sera à 18h et Aurélie Kiefer.